Chapitre 8. Wilhelm, en retournant à la ville, rêvait aux nobles femmes qu'il avait connues et dont il avait ouï parler. Il se représentait douloureusement leur singulière destinée, où le bonheur tenait si peu de place. « Pauvre Marianne, se disait-il, que dois-je apprendre encore sur ton sort ? Et toi, belle Amazone, génie tutélaire, à qui je suis si redevable, que je me flatte partout de rencontrer, et ne trouve, hélas, nulle part. Dans quelle triste situation te verrai-je peut-être, si tu dois un jour t'offrir à mes yeux ? » Arrivé à la ville, il ne rencontra aucune de ses connaissances au logis. Il courut au théâtre, où il croyait trouver les comédiens à la répétition. Tout était silencieux, la maison semblait vide. Cependant, il vit un volet ouvert. Quand il fut sur la scène, il trouva la vieille servante d'Aurélie occupée à coudre des toiles pour une décoration nouvelle. Il n'entrait dans la salle que la lumière nécessaire pour son travail. Félix et Mignon étaient assis auprès d'elle, sur le plancher. Ils tenaient ensemble un livre. Et tandis que Mignon lisait à haute voix, Félix répétait tous les mots après elle, comme s'il avait su lire lui-même. Les enfants se levèrent en sursaut et saluèrent le voyageur. Il les embrassa avec la plus vive tendresse et les mena près de la vieille. « Est-ce toi, lui dit-il d'un ton grave, qui a amené cet enfant à Aurélie ? » Elle leva les yeux de dessus son ouvrage et regarda Wilhelm. Il la vit en pleine lumière, fut saisi de frayeur et recula de quelques pas. C'était la vieille Barbara. « Où est Marianne ? » s'écria-t-il. « Bien loin d'ici. » « Et Félix ? » « Et le fils de cet infortuné, trop aimant et trop tendre. Puissiez-vous ne jamais sentir les mots que vous nous avez faits ? Puisse le trésor que je vous livre vous rendre aussi heureux qu'il nous a rendu malheureuse. » Elle se leva pour sortir. Wilhelm la retenait. « Je ne songe pas à vous échapper, dit-elle. Souffrez que j'aille chercher un papier qui sera pour vous un sujet de joie et de douleur. » Elle s'éloigna. Wilhelm regardait l'enfant avec une joie inquiète. Il n'osait encore le croire à lui. « Il est à toi !» s'écria Mignon. « Il est à toi !» En disant ces mots, elle poussait l'enfant vers les genoux de Wilhelm. La vieille revint et lui présenta une lettre. « Voici les derniers mots de Marianne, lui dit-elle. « Elle est morte ?»« Morte. Si je pouvais vous épargner tous les reproches. » Surpris et troublé, Wilhelm rompit le cachet, mais il avait à peine lu les premiers mots qu'une amère douleur le saisit. Il laissa tomber la lettre, se jeta sur un banc et resta quelque temps immobile. Mignon s'empressait autour de lui. Cependant, Félix avait ramassé la lettre et il tirailla si longtemps sa petite amie qu'elle finit par céder. Elle se mit à genoux auprès de lui et lut la lettre. Félix répétait chaque mot et Wilhelm fut contraint de les entendre deux fois. « Si ce papier arrive jamais jusqu'à toi, pleure sur ta malheureuse amante. Ton amour lui a donné la mort. L'enfant que je laisse orphelin au bout de quelques jours est à toi. Je meurs fidèle, malgré toutes les apparences qui parlent contre moi. Avec toi, j'ai perdu tout ce qui m'attachait à la vie. Je meurs contente, puisqu'on m'assure que l'enfant est bien portant et qu'il vivra. » Écoute la vieille Barbara, pardonne-lui, sois heureux et ne m'oublie pas. » Quelle lettre douloureuse ! Encore, par une sorte de bonheur, lui sembla-t-elle d'abord à moitié énigmatique, et il n'en saisit toute la pensée qu'à une seconde lecture, que les enfants firent en bégayant et balbutiant. « Vous savez tout à présent, » cria la vieille sans attendre qu'il se fût remis. « Remerciez le ciel de ce qu'après la perte de cette bonne jeune fille, il vous reste un si délicieux enfant. » Rien n'égalera votre douleur quand vous apprendrez comme la bonne Marianne vous est restée fidèle jusqu'à la fin, comme elle a été malheureuse et tout ce qu'elle vous a sacrifié. Fais-moi vider d'un seul trait, s'écria Wilhelm, le calice de la douleur et de la joie. Prouve-moi, fais-moi du moins à croire qu'elle était bonne, qu'elle méritait mon estime autant que mon amour, et laisse-moi déplorer ensuite ma perte irréparable.
Ce n'est pas le moment, dit Barbara. J'ai affaire, et je ne voudrais pas que l'on nous surprît ensemble. Ne dites à personne que Félix vous appartient. J'aurai trop de reproches à essuyer des comédiens pour ma dissimulation. Mignon ne nous trahira pas. Elle est bonne et discrète.
Je le savais depuis longtemps, et ne disais rien, repartit Mignon.
Est-ce possible ? Dit Barbara.
Comment le savais-tu ? S'écria Wilhelm.
L'esprit me l'a dit.
Où donc ? Parle !
Dans le passage voûté, quand le vieux tira son couteau, j'entendis crier
« Appelle son père !»
Et soudain je pensais à toi.
« Qui donc t'appela ?»
Je ne sais. Dans le cœur, dans la tête, je sentais une angoisse. Je tremblais, je priais. Alors j'entendis crier et je compris.
Wilhelm pressa Mignon sur son cœur. Il lui recommanda Félix et s'éloigna. Il n'avait observé qu'au dernier moment qu'elle était beaucoup plus pâle et plus maigre qu'à son départ. Parmi ses connaissances, Madame Mélina fut la première qu'il rencontra. Elle lui fit l'accueil le plus amical.
« Si vous pouviez, lui dit-elle, trouver chez nous les choses dans l'état que vous désirez. »«
J'en doute, répondit Wilhelm. Avouez qu'on s'est arrangé de manière à pouvoir se passer de moi. »
Aussi, pourquoi vous être éloigné ?
On ne saurait apprendre trop tôt combien l'on est peu nécessaire dans le monde.
Quels importants personnages ne croyons-nous pas être ? Nous croyons seuls animer le cercle dans lequel nous agissons. Nous imaginons qu'en notre absence, la vie, la nourriture et la respiration vont manquer à chacun, et le vide que nous avons fait se remarque à peine. Il se comble aussitôt. Souvent même, la place est occupée par quelque chose de meilleur, ou du moins de plus agréable.
« Et les regrets de nos amis ?» dit Madame Mélina. « N'en tiendrons-nous aucun compte ?»«
Nos amis eux-mêmes feront sagement s'ils prennent bientôt leur parti, et s'ils se disent « Au lieu où tu es, où tu séjournes, fais ce que tu peux, sois actif et serviable, et jouis gaiement de leur présente. »
De nouvelles explications apprirent à notre ami ce qu'il avait soupçonné. L'opéra était en pleine activité et attirait toute l'attention du public. Ses rôles étaient remplis par Laërte et Horatio, et tous deux étaient plus vivement applaudis que lui-même ne l'avait jamais été. Laërte survint, et Madame Mélina s'écria «
Voyez l'homme heureux qui sera bientôt capitaliste, et Dieu sait quoi encore !»
Wilhelm l'embrassa et s'aperçut que son habit était du drap le plus fin. Le reste de son habillement était simple, mais de la plus belle étoffe.
« Expliquez-moi cette énigme, » dit Wilhelm.
« Vous aurez le temps d'apprendre, » lui répondit Laërte, « que mes allées et venues sont désormais payées. Le chef d'une grande maison de commerce tire parti de mon humeur inquiète, de mes connaissances et de mes relations, et il m'abandonne une part des bénéfices. Je donnerais beaucoup pour pouvoir gagner aussi à ce commerce de la confiance dans les femmes, car il y a dans la maison une jolie nièce, et je vois fort bien qu'il n'y tiendrait qu'à moi de voir ma fortune faite. »
Vous ne savez pas encore, je présume, dit Madame Mélina, qu'il s'est fait aussi parmi nous un mariage.
Serlot est l'époux légitime de la belle Elmire, le père n'ayant pas voulu souffrir leur intrigue secrète.
Ils s'entretinrent de la sorte de ce qui s'était passé en l'absence de Wilhelm, et il put fort bien juger que, dans le fond, la troupe lui avait donné depuis longtemps son congé. Il attendait avec impatience la vieille Barbara, qui lui avait annoncé, pour une heure avancée de la nuit, sa mystérieuse visite. Elle ne voulait pas se rendre chez lui avant que tout le monde fût endormi, et demandait les mêmes précautions que la plus jeune fille qui voudrait se glisser chez son amant. En attendant, Wilhelm relut 100 fois la lettre de Marianne. Il lisait avec un ravissement inexprimable le mot « fidèle » tracé par cette main chérie, et avec horreur l'annonce de sa mort, dont elle ne semblait pas craindre l'approche. Il était plus de minuit lorsqu'il se fit quelque bruit à la porte entr'ouverte, et la vieille entra, un panier à la main. « Il faut, lui dit-elle, que je vous fasse l'histoire de nos malheurs, et je dois le supposer, vous êtes là si tranquillement. Si vous m'attendez ponctuellement, ce n'est que pour satisfaire votre curiosité, et maintenant comme autrefois, vous vous enveloppez de votre froid égoïsme, tandis que nos cœurs se brisent. Mais voyez, de même qu'en cette heureuse soirée j'apportais une bouteille de champagne, que je plaçais les 3 verres sur la table et que vous commençâtes à nous tromper et nous endormir avec vos agréables contes d'enfance. Je vais vous éclairer et vous réveiller aujourd'hui avec de tristes vérités. » Wilhelm ne savait que se dire quand il vit la vieille faire sauter le bouchon et remplir les 3 verres. « Buvez ! » s'écria-t-elle, après avoir vidé tout d'un trait son verre écumant. « Buvez, avant que l'esprit s'évapore !» Ce 3e verre, versé à la mémoire de l'infortunée Marianne, laissons-le sans emploi, laissons tomber la mousse. Comme ses lèvres étaient vermeilles lorsqu'elle buvait à votre santé. Hélas, et maintenant, pâles et glacées pour jamais.
« Sibylle, furie !»
s'écria Wilhelm en se levant et frappant du poing sur la table. « Quel mauvais esprit te possède et te presse! Pour qui me prends-tu? Si tu crois que le plus simple récit des souffrances et de la mort de Marianne ne m'affligera pas assez profondément, sans que tu mettes en œuvre cette infernale adresse pour doubler mon martyre. S'il faut que ton insatiable intempérance fasse une orgie d'un repas funèbre, alors bois et parle. Tu m'as toujours fait horreur. » Et je ne puis encore me figurer Marianne innocente quand je te vois, toi qui fus sa compagne.
« Doucement, monsieur, répondit la vieille, vous ne me ferez point perdre contenance. Vous avez contracté envers nous une grosse dette, et l'on ne se laisse pas malmener par un débiteur. Mais vous avez raison, le plus simple récit sera pour vous une peine suffisante. Écoutez donc la lutte que Marianne a soutenue, la victoire qu'elle a remportée pour vous rester fidèle.
Fidèle ! S'écria Wilhelm. Quel conte me vas-tu faire ?
Ne m'interrompez pas. Écoutez-moi et croyez-en ce qu'il vous plaira. Aujourd'hui, la chose est fort indifférente. Le dernier soir que vous fûtes chez nous, n'avez-vous pas trouvé et emporté un billet ?
Je ne trouvai ce billet qu'après l'avoir emporté. Il était enveloppé dans le mouchoir, dont je m'étais emparé par un mouvement d'amoureux délire et que j'avais caché sur moi.
Que contenait ce billet?
Un amant mécontent exprimait l'espérance d'être mieux reçu la nuit prochaine qu'il ne l'avait été la veille, et qu'on lui ait tenu parole, je l'ai vu de mes propres yeux, car je l'ai aperçu qui s'échappait de chez vous avant le jour.
Vous pouvez l'avoir vu. Mais ce qui se passa chez nous, combien cette nuit fut triste pour Marianne et pénible pour moi, c'est ce qui vous reste à savoir. Je veux être sincère. Je ne veux point nier ni m'excuser d'avoir persuadé Marianne de se livrer à un certain Norberg. Elle m'écouta, je puis dire même, elle m'obéit, avec répugnance. Il était riche, il semblait fort épris, et j'espérais qu'il serait constant. Aussitôt après, il dut faire un voyage, et Marianne fit votre connaissance. Que de choses il me fallut endurer, empêcher, souffrir.
Ah ! S'écriait-elle quelquefois, si seulement tu avais épargné ma jeunesse, mon innocence. 4 semaines encore, j'aurais trouvé un digne objet d'amour, j'aurais été digne de lui, et l'amour aurait pu donner, avec une conscience tranquille, ce que j'ai vendu à contre-cœur. » Elle s'abandonna tout entière à sa passion,
et je n'ai pas besoin de vous demander si vous fûtes heureux. » J'avais un pouvoir sans bornes sur son esprit, parce que je savais tous les moyens de satisfaire ses fantaisies. Je ne pouvais rien sur son cœur, parce qu'elle n'approuvait jamais ce que je faisais pour elle, ce que je lui conseillais, contre ses sentiments secrets. Elle ne cédait qu'aux besoins impérieux, et le besoin lui parut bientôt extrême. Dans ses plus jeunes années, elle n'avait manqué de rien. Sa famille fut ruinée par de malheureuses circonstances. La pauvre fille s'était fait toutes sortes de besoins, et l'on avait gravé dans sa petite âme de bons principes qui la rendaient inquiète, sans lui servir à grand-chose. Elle n'avait pas la moindre habileté dans les affaires de la vie. Elle était innocente dans le vrai sens du mot. Elle n'avait pas l'idée qu'on pût acheter sans payer. Rien ne l'inquiétait plus que les dettes. Elle était toujours plus disposée à donner qu'à recevoir. Et une pareille situation pouvait seule la contraindre à se livrer elle-même pour payer une foule de petites dettes.
« Et tu n'aurais pu la sauver ?»
s'écria Wilhelm avec colère. « Fort bien, dit la vieille, en souffrant la gêne et la faim, le chagrin et l'indigence, et c'est à quoi je ne fus jamais disposée. »
Exécrable, infâme entremetteuse, ainsi donc tu as sacrifié cette infortunée. Tu l'as immolée à ton gosier, à ton insatiable gourmandise.
Vous feriez mieux de vous modérer et de m'épargner vos injures. S'il vous plaît d'insulter les gens, allez dans vos grandes et nobles maisons. Là, vous rencontrerez des mères tourmentées du souci de trouver, pour une aimable et délicieuse jeune fille, l'époux le plus abominable, pourvu qu'il soit le plus riche. Voyez la pauvre enfant trembler et frémir du sort qu'on lui prépare, et ne trouver de consolation que lorsqu'une amie expérimentée lui fait comprendre que, par le mariage, elle acquiert le droit de disposer à son gré de son cœur et de sa personne.
« Tais-toi ! Crois-tu donc qu'un crime puisse être excusé par un autre ? Poursuis ton récit, sans plus faire d'observation. »
Écoutez-moi donc sans me blâmer. Marianne fut à vous contre ma volonté, et du moins dans cette aventure, je n'ai rien à me reprocher. Norbert était de retour. Il revint bien vite chez Marianne, qui le reçut froidement et de mauvaise grâce, et ne lui permit pas même un baiser. J'usai de toute mon adresse pour excuser sa conduite. Je dis à Norbert qu'un confesseur avait alarmé la conscience de Marianne et qu'il faut respecter une conscience tant qu'elle parle. Je réussis à l'éloigner et lui promis que je ferais pour le mieux. Il était riche et violent, mais il avait un fond de bonhomie et il aimait Marianne éperdument. Il me promit de patienter et je m'employai avec zèle pour que l'épreuve ne fût pas trop dure. J'eus à soutenir avec Marianne un rude combat. Je la persuadai, je puis dire même, je la contraignis enfin, en menaçant de l'abandonner, d'écrire à son amant et de l'inviter pour la nuit. Vous arrivez, et par hasard, vous enlevez la réponse dans le mouchoir. Votre présence imprévue avait rendu mon rôle difficile. À peine fûtes-vous parti que les angoisses de Marianne recommencèrent. Elle jura qu'elle ne pouvait vous être infidèle, et sa passion et son exaltation furent telles qu'elle me fit une sincère pitié. Je lui promis enfin de calmer Norbert encore cette nuit et de l'éloigner sous divers prétextes. Je la priai de se mettre au lit, mais elle parut se défier de moi. Elle se coucha tout habillée, et tout émue et tout éplorée, elle finit par s'endormir. Norbert arriva, et je cherchai à le contenir. Je lui peignis les remords et le repentir de Marianne sous les plus noires couleurs. Il demanda seulement de la voir, et j'entrai dans sa chambre pour la préparer. Il me suivit, et nous approchâmes ensemble de son lit. Elle s'éveille, s'élance du lit avec fureur et s'arrache de nos bras. Elle conjure, prie, supplie, menace, et finit par déclarer qu'elle ne cédera point. Elle fut assez imprudente pour laisser échapper, au sujet de son véritable amour, quelques mots que le pauvre Norbert dut s'expliquer dans un sens spirituel. Il finit par la quitter et elle s'enferma.
Je le retins longtemps encore auprès de moi et l'entretins de l'état de Marianne, qu'elle était enceinte et qu'il fallait ménager la pauvre enfant. Il se sentit si fier de sa paternité, il fut si joyeux de pouvoir espérer un beau garçon, qu'il consentit à tout ce qu'elle exigeait de lui et promit de voyager quelque temps, plutôt que de tourmenter sa maîtresse et de nuire à sa santé par ses émotions violentes. C'est dans ses sentiments qu'il s'esquiva de grand matin. Et vous, monsieur, si vous avez fait sentinelle, il n'aurait rien manqué à votre bonheur que de pouvoir lire dans le cœur de votre rival, que vous avez cru si heureux, si favorisé, et dont l'apparition vous réduisit au désespoir.
Dis-tu vrai ? S'écria Wilhelm.
Aussi vrai que j'espère vous y réduire encore. Oui, sans doute, vous seriez désespéré si je pouvais vous faire une vive peinture de notre matinée après cette nuit. Que Marianne fut joyeuse à son réveil. Avec quelle amitié elle m'appela auprès d'elle. Comme elle me remercia vivement. Comme elle me pressa tendrement sur son cœur. À présent, disait-elle en souriant à son miroir, je puis jouir de moi-même, jouir de ma beauté, puisque je m'appartiens encore, que j'appartiens à mon unique ami. Qu'il est doux d'avoir triomphé. Quelle jouissance céleste on goûte à suivre son cœur. Combien je te remercie d'avoir eu pitié de moi, d'avoir une fois employé ton esprit, ton adresse, pour mon avantage. Assiste-moi et songe à ce qui peut me rendre parfaitement heureuse. Je cédais. Je ne voulais pas l'irriter. Je flattais ses espérances. Elle me fit les plus agréables caresses. S'éloignait-elle un moment de la fenêtre, il me fallait faire sentinelle, car vous ne pouviez manquer de passer. On voulait du moins vous voir. Ainsi s'écoula dans l'agitation toute la journée. Le soir, nous vous attendions pour sûr à l'heure accoutumée. J'étais déjà aux aguets dans l'escalier. Le temps me parut long. Je revins près d'elle. Je fus bien surprise de la trouver en habit d'officier. Elle était d'une grâce et d'une gaieté surprenantes. « Ne méritais-je pas, dit-elle, de paraître aujourd'hui en habit de soldat? Ne me suis-je pas conduite en brave? Je veux que mon amant me voie aujourd'hui comme la première fois. Je le presserai sur mon cœur avec la même tendresse et avec plus de liberté. Car ne suis-je pas aujourd'hui sa Marianne, beaucoup plus que dans le temps où une noble résolution ne m'avait pas encore affranchie? Mais, ajouta-t-elle après quelques réflexions, ma victoire n'est pas complète encore. Il me faut tout risquer pour être digne de lui, pour être assurée de sa constance. Je dois tout lui découvrir, lui révéler ma situation, et qu'il juge s'il veut me garder ou me rebuter. Voilà l'entrevue que je lui prépare ainsi qu'à moi-même. Si son cœur était capable de me repousser, je n'appartiendrai plus qu'à moi seule. Je trouverai ma consolation dans mon châtiment, et je souffrirai tous les maux que le sort voudrait m'infliger. Voilà, monsieur, les espérances, les sentiments avec lesquels cette aimable fille vous attendait. Vous ne vîtes pas. Oh, comment décrire son espoir, son attente. Pauvre Marianne, je te vois encore devant moi. Avec quel amour, avec quelle ardeur, tu parlais de l'homme dont tu n'avais pas encore éprouvé la cruauté.
Ma bonne, ma chère Barbara, s'écria Wilhelm en se levant tout à coup et prenant la vieille par la main.
Assez de dissimulation, assez de préparatifs. Ton accent paisible, tranquille et joyeux t'a trahi. Rends-moi Marianne. Elle vit, elle est près de nous. Ce n'est pas en vain que tu as choisi pour ta visite cette heure tardive et solitaire. Ce n'est pas en vain que tu m'as préparée par ce récit ravissant. Où est-elle? Où la tiens-tu cachée? Je croirai tout. Je promets de tout croire si tu me la montres, si tu la ramènes dans mes bras. J'ai déjà vu passer son ombre. Fais que je la presse contre mon cœur. Je veux tomber à ses genoux. Je veux lui demander pardon. Je veux la féliciter de son combat, de sa victoire sur elle et sur toi. Je veux lui présenter mon Félix. Viens, où l'as-tu caché?
Ne la laisse pas, ne me laisse pas plus longtemps dans l'incertitude. Tu as atteint ton but. Où l'as-tu retiré? Viens, que je t'éclaire avec ce flambeau, que je revoie son doux visage. » Wilhelm avait arraché la vieille femme de sa chaise. Elle le regarda fixement, elle fondit en larmes, et une affreuse douleur la saisit. « Quelle erreur déplorable ! » s'écria-t-elle. « Vous laissez encore un moment d'espérance. Oui, je l'ai caché, mais sous la terre. Ni la lumière du soleil, ni une lampe discrète n'éclaireront jamais son doux visage. Conduisez le bon Félix auprès de sa tombe, et dites-lui, là repose ta mère, que ton père a condamnée sans l'entendre. Son cœur aimant ne bat plus d'impatience de vous revoir. Elle n'attend point dans une chambre voisine le succès de mon récit ou de ma fable. Elle est descendue dans la noire cellule où l'on n'est pas suivi du fiancé, d'où l'on ne vient pas au-devant du bien-aimé. » À ces mots, la vieille se prosterna sur le plancher devant une chaise et pleura amèrement. Alors, enfin, Wilhelm fut persuadé que Marianne était morte. Il était dans la plus vive douleur. La vieille se releva. « Je n'ai plus rien à vous apprendre, » dit-elle en jetant un paquet sur la table. « Les lettres que voici achèveront peut-être de confondre votre cruauté. Lisez-les d'un œil sec, si vous pouvez. » Elle s'échappa sans bruit, et Wilhelm n'eut pas cette nuit le courage d'ouvrir le portefeuille. C'était un cadeau qu'il avait fait à Marianne. Il savait qu'elle y renfermait soigneusement le moindre billet qu'elle recevait de lui. Le lendemain, il fit un effort sur lui-même, il délia le ruban, et il vit tomber de petits billets, écrits au crayon de sa propre main, qui lui rappelèrent chaque moment, depuis le jour de leur agréable rencontre jusqu'à celui de leur cruelle séparation. Mais ce ne fut pas sans la plus vive douleur qu'il parcourut une suite de billets qui lui étaient adressés et que Werner avait renvoyés, comme il le vit par le contenu. « Aucune de mes lettres n'a pu te parvenir. Mes prières et mes supplications ne sont pas arrivées jusqu'à toi. As-tu donné toi-même ces ordres cruels? Ne dois-je plus te revoir? Je fais encore une tentative. Je t'en prie, viens, oh, viens. Je ne veux pas te retenir, mais que je puisse te presser encore une fois sur mon cœur. Lorsque j'étais assise auprès de toi, tes mains dans les miennes, mes yeux fixés sur les tiens, et te disais, le cœur plein de confiance et d'amour, « Oh, le plus cher et le meilleur des hommes !» Tu écoutais avec plaisir ce langage. Il fallait te le répéter souvent. Je le répète encore une fois. « Oh, le plus cher et le meilleur des hommes ! Sois bon comme tu l'étais. Viens et ne me laisse pas périr dans ma misère. Tu me crois coupable ? Je le suis en effet, mais non comme tu penses. Viens, afin que j'aie du moins la consolation de me faire connaître à toi tout entière, et qu'ensuite l'on fasse de moi ce qu'on voudra. Ce n'est pas pour moi seulement, c'est aussi pour toi-même que je te supplie de venir. Je sens les douleurs insupportables que tu souffres quand tu me fuis. Viens, que notre séparation soit moins cruelle. Je ne fus peut-être jamais plus digne de toi qu'au moment où tu me repousses dans un abîme de misère. » Par tout ce qu'il y a de sacré, par tout ce qui peut toucher un cœur d'homme, je t'implore. Il s'agit d'une âme, il s'agit d'une vie, de deux vies, dont l'une au moins doit être chère à jamais. Ta défiance ne voudra pas non plus le croire, et pourtant je le déclarerai à l'heure de la mort. L'enfant que je porte en mon sein est à toi. Depuis que je t'aime, aucun homme ne m'a seulement serré la main. Ah, si ton amour, si ta loyauté avaient été les compagnons de ma jeunesse. Tu ne veux pas m'entendre? Il faut donc me taire. Mais ces feuilles ne périront point. Peut-être te parleront-elles encore, quand le linceul couvrira mes lèvres, et quand la voix de ton repentir ne pourra plus parvenir à mon oreille. Pendant ma triste vie, et jusqu'à mon dernier moment,
mon unique consolation sera d'avoir été irréprochable envers toi. Quand même, je ne puis me dire innocente. » Willem fut incapable de poursuivre, et il s'abandonna tout entier à sa douleur. Mais il souffrit plus encore lorsqu'il vit entrer Laerte, à qui il s'efforçait de cacher ses sentiments. Laerte tira de sa poche une bourse pleine de ducats, les compta et recompta, assurant à Wilhelm qu'il n'y avait rien au monde de plus beau que d'être sur le chemin de la fortune, que rien ne pouvait plus alors nous troubler ou nous arrêter. Wilhelm se rappela son rêve et sourit, mais il réfléchit en même temps avec horreur que dans ce même rêve, Marianne l'avait quitté pour suivre son père mort, et qu'enfin tous deux avaient fait le tour du jardin et s'étaient envolés comme des ombres. Laerte l'arracha à ses pensées et l'entraîna au café. Aussitôt, plusieurs personnes y firent cercle autour de lui. C'étaient des amis de son talent dramatique. Ils étaient joyeux de le revoir, mais ils avaient appris avec regret sa résolution de quitter le théâtre. Ils parlèrent avec tant de justesse et d'intelligence de son jeu, de son talent, de leurs espérances, que Wilhelm leur dit enfin, non sans émotion, « Oh, que ces encouragements m'auraient été précieux il y a quelques mois! Comme ils m'auraient éclairé et réjoui! Jamais mon cœur ne se fût aussi complètement détaché du théâtre. Je n'aurais jamais été jusqu'à désespérer du public. » « Il ne faudrait jamais en venir jusque-là, » dit un homme d'âge mûr. « Le public est nombreux. Le bon sens, le bon goût ne sont pas aussi rares qu'on le croit. Seulement, l'artiste ne doit jamais exiger une approbation illimitée pour son œuvre, car cette approbation est la plus insignifiante, et nos messieurs n'en veulent pas de l'imiter. Je sais bien que dans la vie comme dans les arts, on doit se consulter soi-même avant d'agir, avant de produire quelque chose. Mais, quand l'action, quand l'œuvre est accomplie, il ne reste plus qu'à écouter avec attention beaucoup de monde, et avec quelque expérience, on peut bientôt se composer de toutes ces voix un jugement complet. Car ceux qui pourraient nous en épargner la peine gardent le plus souvent le silence. « Voilà justement, dit Wilhelm, ce qu'ils ne devraient pas faire. » J'ai souvent observé que des hommes qui ne disent mot des bons ouvrages blâment et déplorent ce silence chez les autres. « Eh bien, nous parlerons aujourd'hui, » dit vivement un jeune homme. « Dînez avec nous, et nous vous rendrons la justice que nous avons négligé de vous rendre, et quelquefois aussi à la bonne Aurélie. » Wilhelm s'excusa et se rendit chez Madame Mélina pour l'entretenir au sujet des enfants qu'il voulait retirer de chez elle. Il ne garda pas trop bien le secret de Barbara. Il se trahit en revoyant le beau Félix. « Oh, mon enfant » s'écria-t-il, « mon cher enfant !» Il le prit dans ses bras et le pressa sur son cœur. « Papa, que m'as-tu apporté ?» dit le petit garçon. Mignon les regardait tous deux, comme pour les avertir de ne pas se trahir. « Quelle est cette nouvelle scène ?» dit Madame Mélina. On éloigna les enfants, et Wilhelm, qui ne se croyait pas obligé à un secret rigoureux envers la vieille femme, découvrit toute l'affaire à son ami. Madame Mélina le regardait en souriant. « Oh » dit-elle, « que les hommes sont crédules. Si quelque chose se trouve sur leur chemin, on peut bien aisément le leur mettre sur les bras. » Mais ils n'en regardent pas plus une autre fois, à droite ni à gauche, et ne savent rien estimer que ce qu'ils ont d'abord marqué du sceau d'une aveugle passion. » À ces mots, Madame Mélina laissa échapper un soupir. Et si Wilhelm avait eu des yeux, il aurait reconnu chez elle une inclination qu'elle n'avait jamais pu vaincre entièrement. Ensuite, il l'entretint des enfants, lui dit qu'il se proposait de garder Félix auprès de lui et de placer Mignon à la campagne. Madame Mélina, quoiqu'elle se séparât à regret des deux enfants à la fois, jugea le projet bon et même nécessaire. Félix devenait mutin chez elle. et Mignon paraissait avoir besoin du grand air et d'une autre société. La pauvre enfant était souffrante et ne pouvait se rétablir.
« Ne vous laissez pas troubler, » dit Madame Mélina, « par les doutes que j'ai étourdiment exprimés sur la question de savoir si Félix vous appartient. Assurément, la vieille mérite peu de confiance. Mais celui qui peut imaginer un mensonge dans son intérêt peut aussi dire vrai quand la vérité lui profite. Barbara avait fait croire à Aurélie que Félix était fils de Lothaire, et nous autres femmes, nous avons ce caprice d'aimer avec tendresse les enfants de nos amants, bien que nous ne connaissions pas la mère ou que nous la haïssions de tout notre cœur. » À ce moment, Félix accourut et Madame Mélina le pressa dans ses bras avec une vivacité qui ne lui était pas ordinaire. Wilhelm courut chez lui et fit demander Barbara, qui promit de venir, mais pas avant la nuit tombante. Il la reçut fort mal et lui dit « Il n'y a rien de plus honteux au monde que de faire métier de fausseté et de mensonge. Tu as déjà fait ainsi beaucoup de mal, et maintenant que ta parole pourrait décider du bonheur de ma vie, je suis dans le doute, et je n'ose presser dans mes bras l'enfant dont la possession tranquille me rendrait heureux. Infâme créature, je ne puis te voir sans haine et sans mépris. » « S'il faut vous parler franchement, répliqua-t-elle, votre manière d'agir m'est insupportable. Et quand il ne serait pas votre fils, c'est le plus agréable et le plus bel enfant du monde. On l'achèterait à grand prix pour l'avoir toujours près de soi. N'est-il pas digne de votre affection? N'ai-je pas mérité, pour mes soins et ma peine, un peu de pain jusqu'à la fin de mes jours? Vous autres, messieurs, à qui rien ne manque, vous pouvez tout à votre aise parler de vérité et de franchise. Mais de savoir comment une pauvre créature, qui ne trouve pas de quoi subvenir à ses plus pressants besoins, qui se voit dans sa détresse sans amis, sans conseils, sans secours, comment elle pourra se pousser à travers un monde égoïste et mener sans bruit sa misérable vie? Il y aurait là-dessus bien des choses à dire si vous pouviez et vouliez l'entendre. Avez-vous lu les lettres de Marianne? Ce sont les mêmes qu'elle vous écrivit dans ce temps malheureux. Je fis de vains efforts pour arriver jusqu'à vous, pour vous les remettre. Votre cruel beau-frère vous avait si bien entouré que toute ma ruse et mon adresse furent inutiles. Et comme il finit par nous menacer l'une et l'autre de la prison, il fallut bien renoncer à toute espérance. Tout ne s'accorde-t-il pas avec mon récit? Et la lettre de Norbert ne met-elle pas toute l'histoire hors de doute?
Quelle lettre? Demanda Wilhelm. Ne l'avez-vous pas trouvée dans le portefeuille?
Je n'ai pas encore tout lu.
Donnez-moi le portefeuille. Cette lettre est la pièce essentielle. Un malheureux billet de Norbert a causé cette fatale confusion. Un autre écrit de sa main délira le nœud, pour autant que le fil en vaille la peine encore. Barbara tira un billet du portefeuille. Wilhelm reconnut la main détestée. Il fit un effort sur lui-même et lut ce qui suit. « Dis-moi, jeune fille, comment tu peux prendre tant d'empire sur moi? Je n'aurais pas cru qu'une déesse même pût faire de moi un soupirant. Au lieu de venir à moi les bras ouverts, tu recules. On aurait pu dire à ta conduite que je te fais horreur. Est-il permis de me faire passer la nuit dans une chambre à part, assis sur un coffre, à côté de la vieille Barbara, et deux portes seulement me séparer de ma bien-aimée? C'est trop fort, te dis-je. J'ai promis de te laisser un peu de réflexion, de ne pas me montrer d'abord trop pressant, et chaque quart d'heure perdu me rend furieux. Ne t'ai-je pas donné tout ce que j'ai cru pouvoir t'être agréable? N'es-tu pas encore persuadée de mon amour? Si tu désires quelque chose, parle, tu ne manqueras de rien. Je voudrais qu'il devint aveugle et muet, le calotin qui t'a mis ses folies dans la tête. Fallait-il en choisir un pareil? Tant d'autres savent passer quelque chose aux jeunes gens. Tu m'entends, il faut que cela change. J'exige une réponse dans 2 ou 3 jours, car je dois repartir bientôt. Et si tu ne redeviens pas aimable et complaisante,
Tu ne me reverras jamais. » La lettre continuait longtemps sur ce ton. À la douloureuse satisfaction de Wilhelm, elle tournait toujours autour du même point et témoignait de la vérité du récit de Barbara. Une seconde lettre prouvait clairement que Marianne n'avait pas cédé non plus dans la suite, et Wilhelm apprit, non sans une douleur profonde, dans toute cette correspondance, l'histoire de la malheureuse jeune fille jusqu'à l'heure de sa mort. La vieille avait apprivoisé peu à peu le farouche Norbert en lui annonçant la mort de Marianne et lui laissant croire que Félix était son fils. Il lui avait envoyé quelquefois de l'argent qu'elle s'appropriait, car elle avait déjà su persuader à Aurélie de prendre à sa charge l'éducation de l'enfant. Malheureusement, ses secrètes ressources lui manquèrent bientôt. Norbert avait dissipé par sa mauvaise conduite la plus grande partie de sa fortune, et de nouvelles galanteries endurcirent son cœur pour son fils prétendu. Quoique tout cela parût être fort vraisemblable et s'accordait fort bien, Wilhelm n'osait encore s'abandonner à la joie. Il semblait se défier d'un présent que lui faisait un mauvais génie. « Le temps seul peut guérir vos doutes, » lui dit la vieille qui devinait ses sentiments. « Regardez l'enfant comme étranger et observez-le avec plus de soin. Observez ses dons, son caractère, ses facultés, et si vous ne vous reconnaissez pas vous-même insensiblement, vous n'avez pas de bons yeux. Car je vous l'assure, si j'étais un homme, personne ne me mettrait sur les bras un enfant étranger. Mais il est heureux pour les femmes que les hommes ne soient pas là-dessus aussi clairvoyants. » Après ces explications, Wilhelm congédia Barbara. Son dessein était de prendre Félix avec lui. Barbara conduirait Mignon chez Thérèse, et puis elle irait manger où bon lui semblerait la petite pension qu'il lui promit. Il fit appeler Mignon pour la préparer à ce changement. « Meister, lui dit-elle, garde-moi auprès de toi, ce sera mon bien et mon mal. » Il lui représenta qu'elle devenait grande et qu'elle avait besoin de s'instruire. « Je suis assez instruite, reprit-elle, pour aimer et pleurer. » Il lui fit considérer sa santé, qui exigeait des soins soutenus et les directions d'un habile médecin. « Pourquoi s'inquiéter de moi ? » dit-elle. « On a tant d'autres soucis à prendre. » Wilhelm se donna beaucoup de peine pour lui persuader qu'il ne pouvait désormais la garder auprès de lui, qu'il la placerait chez des personnes où il irait la voir souvent. Mais elle parut n'avoir pas entendu un seul mot de tout cela. « Tu ne me veux pas auprès de toi, » dit-elle. « C'est peut-être le mieux. Envoie-moi près du vieux joueur de harpe. Le pauvre homme est bien seul. » Wilhelm tâcha de lui faire comprendre que le vieillard était fort bien soigné. « Je le regrette sans cesse, » dit l'enfant. « Cependant, je n'ai pas remarqué, » reprit Wilhelm, « que tu lui fusses si attaché quand il vivait avec nous. Il me faisait peur quand il était éveillé. Je ne pouvais soutenir son regard. Mais lorsqu'il dormait, j'aimais à m'asseoir auprès de lui. Je lui chassais les mouches et ne pouvais me rassasier de le regarder. Oh, il m'a soutenue dans de terribles moments. Nul ne sait ce que je lui dois. Si j'avais su le chemin, j'aurais couru auprès de lui. » Wilhelm lui représenta en détail les circonstances, lui dit qu'elle était une enfant raisonnable, et que cette fois encore, elle se soumettrait sans doute à ce qu'il désirait. « La raison est cruelle, » repartit l'enfant. « Le cœur vaut mieux. J'irai où tu voudras, mais laisse-moi ton Félix. » Après un long débat, elle persistait encore, et Wilhelm dut enfin se résoudre à remettre les deux enfants à la vieille pour les conduire ensemble chez Mademoiselle Thérèse. Cette détermination lui fut d'autant plus facile qu'il hésitait toujours à regarder le beau Félix comme son fils. Il le prenait sur son bras et le promenait autour de la chambre. L'enfant aimait à se regarder au miroir. Sans se l'avouer, Wilhelm le portait devant volontiers,
et cherchait à démêler entre lui et Félix des traits de ressemblance. Ce rapport lui paraissait-il un moment vraisemblable? Il pressait l'enfant contre son cœur. Mais tout à coup, effrayé à la pensée qu'il pouvait se tromper, il le posait par terre et le laissait courir. « Ah ! Disait-il, si j'allais m'approprier cet inestimable trésor et qu'il me fût ensuite arraché, je serais le plus malheureux des hommes. » Les enfants étaient partis, et Wilhelm voulait prendre formellement congé du théâtre. Mais il sentit qu'il était déjà congédié et qu'il n'avait plus qu'à s'en aller. Marianne n'était plus, ses deux anges gardiens s'étaient éloignés et ses pensées volaient sur leurs traces. Le bel enfant lui revenait à la pensée, comme une apparition vague et charmante. Il le voyait courir à travers les champs et les bois, donnant la main à Thérèse, et se former au sein de la libre nature, sous les yeux d'une libre et gracieuse surveillante. Thérèse lui était devenue beaucoup plus chère encore, depuis qu'il se figurait l'enfant près d'elle. Même sur les bancs du théâtre, il souriait à son souvenir, et il sentait, à peu près comme elle, que la scène ne lui faisait plus aucune illusion. Serlot et Mélina le comblèrent de politesse dès qu'ils virent qu'il ne prétendait plus à son ancienne place. Une partie du public souhaitait de le voir paraître encore. La chose lui eût été impossible, et dans la troupe, personne ne le désirait, sauf peut-être Madame Mélina. En faisant ses adieux à cet ami, il fut ému et lui dit « Pourquoi faut-il que l'homme se hasarde à rien promettre pour l'avenir? Il n'est pas en état de tenir la moindre chose. Que sera-ce s'il se propose un objet important? Quelle est ma confusion quand je songe à ce que je vous promis à tous dans cette malheureuse nuit, où, dépouillés, malades, blessés et souffrants, nous étions entassés dans un misérable cabaret. Comme le malheur élevait alors mon courage, et quel trésor je croyais trouver dans ma bonne volonté. Et tout cela n'a rien produit, absolument rien. Je vous quitte et je reste votre débiteur. Heureusement, on n'a pas attaché à ma promesse plus d'importance qu'elle n'en méritait, et personne ne me l'a jamais rappelé. Ne soyez pas injuste envers vous-même, lui répondit Madame Mélina. Si personne ne reconnaît ce que vous avez fait pour nous, moi je ne le méconnaîtrai pas, car notre position serait tout autre si nous ne vous avions pas possédé. Il en est de nos projets comme de nos désirs. Nous ne les reconnaissons plus une fois qu'ils sont exécutés, qu'ils sont accomplis, et nous croyons n'avoir rien fait, rien obtenu. Vos explications amicales ne tranquilliseront pas ma conscience, répondit Wilhelm, et je me regarderai toujours comme votre débiteur. Il est bien possible encore que vous le soyez, reprit Madame Mélina, mais non de la manière que vous entendez. Nous regardons comme une honte de ne pas remplir une promesse sortie de notre bouche. Oh, mon ami, un homme généreux ne promet que trop par sa présence. La confiance qu'il éveille, l'affection qu'il inspire, les espérances qu'il fait naître sont infinies. Il devient et il demeure notre débiteur sans le savoir. Adieu. Si notre position extérieure s'est heureusement rétablie sous votre direction, votre départ laisse au fond de mon âme un vide qui ne sera pas facile à combler. Avant de quitter la ville, Wilhelm écrivit à Werner une longue lettre. Ils en avaient échangé quelques-unes, mais comme ils ne pouvaient s'entendre, ils avaient fini par ne plus s'écrire. Maintenant, Wilhelm s'était rapproché de son ami. Il se disposait à faire ce que Werner désirait si fort. Il pouvait dire « Je quitte le théâtre et je m'associe à des hommes dont la société doit me conduire, de toute manière, à une activité pure et tranquille. » Il demanda l'état de son bien, et il s'étonnait lui-même d'avoir pu si longtemps n'en prendre aucun souci. Il ne savait pas que c'est le propre de tous les hommes qui s'occupent beaucoup de leur culture morale de négliger absolument les intérêts matériels.
Wilhelm s'était trouvé dans ce cas, et il sembla reconnaître, cette fois, que pour agir d'une manière soutenue, il avait besoin de moyens extérieurs. Il partit avec de tout autres sentiments que dans sa première visite à Lautère. Les perspectives qui s'offraient à lui étaient ravissantes, et il espérait être sur le chemin du bonheur. Chapitre 9. À son arrivée au château, il trouva un grand changement. Jarno vint à sa rencontre avec la nouvelle que l'oncle était mort et que Lautère était parti pour aller prendre possession de l'héritage. « Vous arrivez à propos, lui dit-il, pour nous aider, l'abbé et moi. Lautère nous a chargés d'acheter des terres considérables dans notre voisinage. La chose se préparait depuis longtemps et nous trouvons à propos de l'argent et du crédit. La seule difficulté, c'est qu'une maison de commerce étrangère avait déjà des vues sur ces mêmes biens. À présent, nous sommes purement et simplement décidés à faire cette opération avec elle. Autrement, nous aurions enchéri sans nécessité et sans raison. Nous avons, semble-t-il, affaire à un homme habile. Maintenant, nous en sommes au calcul et au projet. Il faut examiner aussi, au point de vue de l'exploitation rurale, comment nous pourrons partager ces terres, de manière que chacun possède un beau domaine. » Les papiers furent communiqués à Wilhelm. On visita les champs, les prairies, les bâtiments, et, quoique Jarno et l'abbé parussent entendre fort bien la chose, il regretta pourtant que Mademoiselle Thérèse ne fût pas de la partie. Ils passèrent plusieurs jours dans ces travaux, et Wilhelm eut à peine le temps de raconter ses aventures et sa douteuse paternité à ses amis, qui traitèrent avec indifférence et légèreté une affaire si importante pour lui. Il avait observé que dans leurs entretiens familiers, à table ou à la promenade, ils s'arrêtaient quelquefois tout à coup, donnaient à la conversation un autre tour, et par là, faisait voir tout au moins qu'ils avaient à régler ensemble quelques affaires qu'on lui dérobait. Il se rappela les paroles de Lydie, et il les croyait d'autant plus fondées qu'on lui avait fermé constamment tout un côté du château. Il avait cherché vainement l'accès et l'entrée de certaines galeries, et particulièrement de la vieille tour, qu'il connaissait fort bien à l'extérieur. Jarno lui dit un jour « Nous pouvons si bien vous regarder maintenant comme l'un des nôtres qu'il serait injuste de ne pas vous introduire plus avant dans nos secrets. Il est bon que l'homme, à son entrée dans le monde, compte beaucoup sur lui-même, qu'il se flatte d'acquérir beaucoup d'avantages, qu'il cherche à surmonter tous les obstacles, mais quand il s'est développé jusqu'à un certain point, il est bon qu'il apprenne à vivre pour les autres et à s'oublier lui-même, dans une activité réglée par le devoir. C'est alors seulement qu'il apprend à se connaître, car c'est proprement la pratique qui nous met en parallèle avec les autres. Vous apprendrez bientôt quel petit monde se trouve dans votre voisinage et comme vous y êtes bien connu. Soyez debout et prêt à me suivre demain matin, avant le lever du soleil. » Jarno vint à l'heure fixée et conduisit Wilhelm par des chambres connues et inconnues, puis par quelques galeries, et ils arrivèrent enfin devant une grande et vieille porte munie d'une solide serrure. Jarno heurta, la porte s'entr'ouvrit tout juste assez pour qu'un homme pût se glisser dans l'intérieur. Jarno poussa Wilhelm dans la tour sans le suivre. Notre ami se trouva dans un lieu étroit et sombre. Il était dans les ténèbres, et s'il voulait faire un pas en avant, il se sentait arrêté. Une voix, qui ne lui était pas tout à fait inconnue, lui cria « Entrez !» Alors il s'aperçut que les côtés de l'espace dans lequel il se trouvait n'étaient fermés que par des tapisseries, à travers lesquelles une faible lueur pénétrait. « Entrez !» répéta la même voix. Il souleva la tapisserie et il entra. La salle dans laquelle il avait passé semblait être une ancienne chapelle. À la place de l'autel se trouvait une grande table, élevée sur une estrade et couverte d'un tapis vert. Au-delà, un rideau tiré semblait cacher un tableau.
Sur les côtés, régnaient des armoires d'un beau travail, fermées par un léger treillis de fil d'archal, comme on en voit dans les bibliothèques. Seulement, au lieu de livres, il vit sur les rayons de nombreux rouleaux. Il n'apercevait personne dans la salle. Le soleil levant brillait devant lui à travers les vitraux coloriés et lui faisait un gracieux accueil. « Assieds-toi !» cria une voix qui paraissait sortir de l'hôtel. Wilhelm s'assit sur un petit fauteuil adossé à l'entrée. Il n'y avait pas d'autre siège dans toute la salle. Il fut obligé de s'y placer, bien que le soleil l'éblouît. Le fauteuil était fixé au parquet. Wilhelm ne put que mettre sa main devant ses yeux. Le rideau placé derrière l'autel s'ouvrit avec un léger frôlement et laissa voir, dans un cadre, une ouverture vide et sombre. Il y parut un homme en habits ordinaires qui le salua et lui dit « Me reconnaissez-vous peut-être ? Parmi tant de choses que vous désirez savoir, souhaitez-vous d'apprendre où se trouve maintenant la collection de votre grand-père ? Ne vous souvient-il plus du tableau que vous trouviez si ravissant ? Où peut languir à cette heure le prince malade d'amour ?» Wilhelm reconnut aisément l'étranger avec lequel il s'était entretenu à l'auberge dans la nuit fatale. « Peut-être, poursuivit cet homme, serons-nous plutôt d'accord aujourd'hui sur le destin et le caractère ?» Wilhelm voulait répondre quand le rideau se referma brusquement. « Chose étrange, se dit-il à lui-même, les événements fortuits auraient-ils un enchaînement et ce que nous nommons le destin, ne serait-il que le simple hasard ? Où peut se trouver la collection de mon grand-père ? Et pourquoi m'en fait-on souvenir dans ces moments solennels ? Il n'eut pas le loisir de rêver plus longtemps. Le rideau se rouvrit et il vit paraître un homme qu'il reconnut sur le champ pour le pasteur de campagne qui avait fait la promenade sur l'eau avec lui et la troupe joyeuse. Il ressemblait à l'abbé, et pourtant ce n'était pas la même personne. Avec un visage serein et une voix imposante, il prit la parole en ces termes. Le devoir de l'instituteur des hommes n'est pas de les garantir d'erreurs, mais de les diriger lorsqu'ils s'égarent. Laissez même le disciple boire l'illusion à longs traits. Telle est la sagesse du maître. Celui qui ne fait que tremper ses lèvres dans l'erreur l'aménage longtemps. Il la chérit comme un rare bonheur. Mais celui qui vide la coupe apprend à connaître son égarement, à moins qu'il ne soit un insensé. Le rideau se ferma de nouveau, et Wilhelm eut le temps de réfléchir à ses paroles. « De quelle erreur cet homme veut-il parler ? » se disait-il. « Sinon de celle qui m'a poursuivi toute ma vie, quand je cherchais le perfectionnement moral où je ne pouvais le trouver, quand je m'imaginais pouvoir acquérir un talent pour lequel je n'avais pas la moindre disposition. » Le rideau s'écarta plus vivement, un officier parut et dit en passant « Apprenez à connaître les hommes en qui l'on peut avoir confiance. » Le rideau se ferma et Wilhelm n'eut pas besoin de réfléchir longtemps pour reconnaître dans cet officier celui qu'il avait embrassé dans le parc du comte et lui avait fait prendre Jarnot pour un recruteur. Comment était-il venu là et qui pouvait-il être? C'était pour Wilhelm une énigme complète. Si tant d'hommes s'occupaient de toi, connaissaient la direction que tu avais prise et savaient ce que tu aurais dû faire, pourquoi ne se sont-ils pas montrés des guides plus sérieux, plus sévères? Pourquoi ont-ils favorisé tes amusements au lieu de t'en détourner? Ne conteste pas avec nous, cria une voix. Tu es sauvé et tu marches au but. Tu n'expiras et tu ne regretteras aucune de tes folies. Jamais destinée plus heureuse ne fut le partage d'un mortel. Le rideau s'ouvrit brusquement, et le roi de Danemark, le vieil Hamlet, parut, armé de pied en cap. « Je suis l'ombre de ton père, dit la figure,
et je m'en vais consolée, puisque mes vœux pour toi sont comblés au-delà de mes espérances. On ne peut gravir que par des détours au sommet des monts escarpés. Dans la plaine, des routes droites mènent d'un lieu à un autre. Sois heureux et pense à moi quand tu jouiras des biens que je t'ai préparés. » L'émotion de Wilhelm fut extrême. Il croyait entendre la voix de son père. Et pourtant, ce ne l'était pas non plus. Le présent et le passé le plongeaient dans un trouble inexprimable. Il n'eut pas le loisir de rêver longtemps. L'abbé parut et se plaça derrière la table verte. « Approchez, » dit-il à son ami, saisi de surprise. Wilhelm approcha et monta les degrés de l'estrade. Sur le tapis était un petit rouleau. « Voici votre lettre d'apprentissage, » dit l'abbé. « Méditez-la soigneusement. Elle renferme d'importantes leçons. » Wilhelm prit le rouleau, l'ouvrit et lut ce qui suit. Lettre d'apprentissage. L'art est long, la vie courte. Le discernement difficile, l'occasion fugitive. Agir est aisé, penser est difficile. Mettre à exécution sa pensée est pénible. Tout commencement est agréable. Le seuil est la place d'attente. L'enfant s'étonne, l'impression le détermine. Il apprend en jouant. Le sérieux le surprend. L'imitation nous est naturelle. Ce qu'il faut imiter n'est pas facile à reconnaître. Rarement on trouve l'excellent. Plus rarement on l'apprécie. Les hauteurs nous attirent, mais non les degrés. Le regard fixé sur les sommets, nous marchons volontiers dans la plaine. On ne peut enseigner qu'une partie de l'art. L'artiste a besoin de l'art tout entier. Qui ne le connaît qu'à demi, s'égare toujours et parle beaucoup. Qui le possède tout entier, ne se plaît qu'à l'exercer et parle rarement ou tard. Les premiers n'ont aucun secret et aucune force. Leur doctrine est comme le pain cuit, savoureuse et nourrissante pour un jour. Mais on ne peut semer la farine, et la semence ne doit pas être moulue. Les paroles sont bonnes, mais ce n'est pas le meilleur. Le meilleur ne peut s'exprimer par les paroles. L'esprit qui nous fait agir est ce qu'il y a de plus éminent. L'action n'est comprise et reproduite que par l'esprit. Personne ne sait ce qu'il fait quand il fait bien, mais nous avons toujours conscience du mal. Celui qui n'agit que par signe est un pédant, un hypocrite ou un barbouilleur. Il y a beaucoup de ces gens-là, et ils s'entendent fort bien ensemble. Leur bavardage arrête le disciple, et leur opiniâtre médiocrité tourmente les meilleurs. L'enseignement du véritable artiste révèle la pensée, car si les paroles manquent, l'action parle. Le véritable élève apprend à démêler l'inconnu par le connu et s'approche du maître. « Il suffit, » dit l'abbé, « le reste en son temps. À présent, jetez les yeux dans ses armoires. » Wilhelm s'en approcha et parcourut les titres des rouleaux. Il trouva avec surprise les années d'apprentissage de Lothair, les années d'apprentissage de Jarno, les années d'apprentissage de Wilhelm Meister, parmi beaucoup d'autres dont les noms lui étaient inconnus. « Me sera-t-il permis de jeter les yeux sur ces rouleaux ?»« Il n'y a plus rien de secret pour vous dans cette salle. » « Oserais-je faire une question ?»« Sans scrupule, et vous pouvez attendre une réponse décisive s'il s'agit d'une affaire qui vous intéresse et qui doit vous intéresser. » « Eh bien, hommes singuliers et sages, dont le regard pénètre tant de mystères, pouvez-vous me dire si Félix est véritablement mon fils ?»« Heureux êtes-vous de faire cette question ?» s'écria l'abbé en frappant des mains avec allégresse. « Félix est votre fils. Par notre mystère le plus sacré, je vous le jure, Félix est votre fils. Et par ses sentiments, sa défunte mère n'était pas indigne de vous. Recevez de notre main l'aimable enfant.
Tournez-vous et osez être heureux. »
Wilhelm entendit quelques bruits derrière lui. Il se retourna et il vit une figure d'enfant qui le lorgnait d'un œil malin par l'ouverture du rideau de l'entrée. Le petit espiègle se cacha aussitôt qu'il fut aperçu. « Montre-toi !» cria l'abbé. Il accourut. Son père s'élança au-devant de lui, le prit dans ses bras et le pressa sur son cœur.
« Oui, je le sens !» s'écria-t-il. « Tu es à moi ! De quel don céleste je suis redevable à mes amis ! Mon enfant, d'où viens-tu à point nommé dans ce moment ?»«
Ne le demandez pas !» dit l'abbé. « Heureux jeune homme, vos années d'apprentissage sont finies. La nature vous a franchis. »